Le paradoxe de Fermi. Vous êtes le docteur Fermi ?
Oui, lui-même.
Ravi de vous rencontrer. J'ai lu votre article, mais où sont-ils ? Où vous présentez le paradoxe dont vous êtes l'auteur ?
Ah ! Et qu'en pensez-vous ?
Il me semble y avoir dans votre démarche un certain nombre de présupposés.
Lesquels ?
Si des extraterrestres résidaient sur Terre, ou par exemple sur la face cachée de la Lune, pourquoi entrerait-il automatiquement en contact avec les terriens ?
Parce que le contact est une des choses les plus naturelles qui soient, ce me semble. C'est directement lié au fait de posséder un système de perception, de communication. Tous les êtres vivants communiquent, un jour ou l'autre. L'autisme ne sied pas aux vivants.
J'entends bien, professeur. Mais dans ce cas précis, il y aurait automatiquement transfert de connaissances technico-scientifiques.
Certes. Ça pourrait donner lieu à des échanges de points de vue intéressants, non ? Peut-être à des échanges commerciaux ou touristiques. Personnellement, j'adorerais aller visiter une autre planète. Pas vous ?
Est-ce que vous n'êtes pas personnellement impliqué actuellement dans un projet visant à développer une arme nucléaire, une arme à fission ?
Ma foi, comme les essais sur site sont prévus dans les jours immédiatement à venir, je peux vous répondre positivement. C'est de la très belle physique.
Autrement dit, dans quelques jours, le monde entier saura que la bombe à fission peut fonctionner.
Tout à fait. Et nous avons deux bombes, l'une à l'uranium et l'autre au plutonium. Il ne s'agit donc pas d'une expérience, mais de deux. Je pense personnellement que les deux vont marcher. D'ailleurs, à Lamogordo, tout s'était très bien passé.
Très intéressant, mais pourquoi les États-Unis, où vous êtes expatrié, se sont-ils lancés dans la réalisation d'une telle arme ?
Disons que c'était efficace pour mettre fin à cette horrible guerre du Japon. De plus, ça ne fera guère plus de morts que les récents bombardements par bombes incendiaires sur Tokyo. Arrêtez de fantasmer sur le nucléaire, ce n'est qu'une arme comme une autre.
Sauf qu'elle n'est que dans sa toute petite enfance.
J'en conviens, j'espère que nous saurons contrôler cet enfant turbulent.
Je vous le souhaite, mais j'en reviens à ma question. Pourquoi les nazis n'ont-ils pas développé eux-mêmes une telle arme, puisque la science nucléaire est pratiquement née chez eux, à Göttingen, juste avant la guerre ?
Parce que ce sont des idiots. Rust, leur ministre de la science, n'a jamais cru qu'on pourrait faire des bombes à fission.
Alors que vous, vous y avez cru.
C'est exact.
Pourtant, deux éminents atomistes, von Weizsäcker et Werner Heisenberg, ont passé toute la guerre en Allemagne. Après l'effondrement du pays, vous leur avez mis la main dessus et vous les avez internés en Angleterre.
Oh, dites donc, je vois que vous êtes au courant. Enfin, plus exactement, nous les avons mis dans un endroit qui s'appelle Farm Hall. Mais d'ici quelques jours, tout cela n'aura plus beaucoup d'importance.
Vous pensez qu'Heisenberg n'avait pas aperçu les possibilités de la fission pour produire une arme ?
J'avoue que ça m'a toujours étonné. C'est un garçon plutôt fin. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel pour l'invention de son fameux principe d'incertitude, une contribution majeure qui le fera à jamais figurer dans l'histoire des sciences. C'est la raison pour laquelle je ne comprends guère qu'il se soit à ce point trompé dans ses calculs, qu'il ait fourni aux Allemands une valeur si élevée de la masse critique. 10 tonnes, je crois.
Et s'il ne s'était pas trompé dans ses calculs ?
Que voulez-vous dire par là ?
Eh bien, s'il avait délibérément fourni aux nazis une valeur trop élevée.
Mais c'est absurde, la valeur est plus faible.
Oui, professeur, mais s'il avait menti pour détourner Hitler de toute idée de mettre en chantier une arme nucléaire, qui aurait été d'autant plus dangereuse que l'Allemagne possédait déjà des vecteurs, les V2, vous le savez.
Bien sûr que je le sais. C'est cette attitude que je n'arrive pas à comprendre. Ce faisant, il a en quelque sorte trahi ses compatriotes. Notez qu'en un sens, c'est mieux pour nous.
professeur Fermi, j'en reviens à mon propos. Aux USA, vous avez développé la construction d'armes nucléaires au prix d'un gros effort technique et financier, parce que vous croyiez que cela marcherait.
Oh, on était plusieurs à le penser. J'ai fait diverger une pile.
Je sais. Est-ce que vous réalisez l'importance de cette simple information ? C'est faisable. L'importance de la conviction. Si Heisenberg, au lieu de fournir cette valeur trop élevée de la masse critique, avait fourni une valeur plus raisonnable, réaliste, les nazis auraient alors pu entreprendre eux aussi la construction de bombes.
Nous avons craint cela jusqu'à ce que la mission Alsos, juste après l'effondrement de l'Allemagne, ait montré qu'il n'avait en fait rien fait dans ce sens.
Mais s'ils avaient eu cette conviction, un tel projet aurait été chez eux réalisable.
Effectivement, ça n'est pas impossible. Ils disposaient d'ingénieurs et de scientifiques tout à fait remarquables.
Professeur Fermi, revenons à votre paradoxe. Est-ce que vous seriez prêt à admettre que le fait de pouvoir effectuer des voyages d'une étoile à l'autre pourrait impliquer une technologie et des connaissances scientifiques totalement différentes de celles que nous possédons actuellement, aussi différentes de votre science nucléaire naissante que celle-ci pourrait l'être de la classique chimie?
Ça, je peux le comprendre. Le nucléaire est une hyperchimie. La chimie des noyaux, en quelque sorte. Les voyages interstellaires pourraient impliquer une sorte de physique hyper-nucléaire. Peut-être ceci pourrait-il déboucher sur des hyper-propulseurs capables de nous faire approcher la vitesse de la lumière.
Mais peut-être aussi ce concept de barrière luminique pourrait-il perdre un jour son sens. N'oubliez pas, docteur Fermi, que la bombe n'a pu être réalisable que parce que vous avez pu mettre en œuvre quelque chose d'impossible, permettre à un neutron de pénétrer dans la forteresse atome. Et ceci en application directe du principe d'incertitude. Ainsi, le neutron ne franchit pas l'enceinte, il est déjà à l'intérieur. Est-ce exact?
Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Il existait effectivement une probabilité non nulle pour que ce neutron soit déjà à l'intérieur du noyau.
Vous voyez bien, professeur Fermi, que ceci viole complètement le sens commun classique.
J'en conviens, effectivement.
Chaque époque a son sens commun. Pourriez-vous concevoir que la barrière luminique découle d'un nouveau sens commun plus moderne et que celui-ci puisse un jour être, comment dirais-je, transcendé?
En toute logique, je dois admettre que oui.
Donc, docteur Fermi, vous pouvez admettre qu'il puisse exister tout un plan de connaissances dont vous pourriez totalement ignorer l'existence.
En science, il en a toujours été ainsi. Il y a encore peu d'années, les gens ignoraient qu'on pouvait réellement transformer de la matière en énergie. Le grand Poincaré lui-même était totalement sceptique, qui disait « Je ne croirai jamais qu'on pourra un jour détruire une ville avec une livre de matière. » Or, ce pauvre vieux va recevoir dans 48 heures un démenti des plus cinglants. Quant à l'allemand Otto Hahn, le découvreur de la fission, il disait que Dieu ne le permettrait pas. Fermi partit d'un grand rire. Dieu n'a rien à voir avec la physique.
C'est votre conviction, docteur Fermi, qui a mis en marche le projet Manhattan.
C'est exact.
Pouvez-vous imaginer que d'autres convictions pourraient mobiliser de la même matière, de la même manière, votre créativité et votre imagination? Le fait que les voyages interstellaires puissent être possibles.
Eh bien, si nous pensions que cela puisse être réellement possible, nous mettrions très certainement à réfléchir sur la question, mais on sait que c'est impossible.
Et pourquoi?
Parce que si les extraterrestres nous visitaient, ils entreraient en contact avec nous. C'est un réflexe naturel. Quand vous débarquez quelque part, vous saluez les gens, non? Par ailleurs, si des visites avaient eu lieu dans le passé, elles auraient laissé des traces. On n'a d'ailleurs capté aucun message radio, rien. La conclusion est que nous sommes seuls et que les prétendues observations d'OVNI ne sont que des affabulations de cerveaux dérangés et des discours de mythomanes. J'ai peu de temps aujourd'hui, hélas, mais cette conversation fut intéressante. Nous pourrions peut-être la reprendre un jour. Au fait, avant que nous nous quittions, vous travaillez dans quelle université ?